Merci beaucoup. Merci, Christian. Merci. Je me suis... Je pas ton prénom encore. C'est... Merci. J'ai de la misère avec les prénoms en passant. Alors, vous m'excusez pour ça. Je suis content d'être encore parmi vous ce matin, cet après-midi plutôt. Et puis, on fera pas le... La parabole lorsqu'il sépare les brebis et les boucs, parce que vous êtes à gauche. Tout le monde est à gauche et puis personne à droite, mais je sais que vous êtes tous des brebis du Seigneur. Alors, c'est vraiment un privilège, mais que le Seigneur puisse nous faire découvrir, comme tu viens de le mentionner, André, de nous redire l'histoire. On a tellement besoin d'entendre parler de ce message de l'Évangile qui est tellement riche. Alors, on va tourner dans, justement, en parlant de l'Évangile, on va tourner dans 1 Pierre 1, verset 10 à 13. 1 Pierre 1, verset 10 à 13. Et si on avait un titre à donner, ce serait vraiment le titre, ce serait la beauté de l'Évangile, justement. Parole du Seigneur, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Merci Seigneur pour ta parole. Et puis, cet évangile-là est écrit par l'apôtre Pierre. Et puis, les premiers versets, vous allez le voir, les premiers versets parlent de que des gens qui avaient été dispersés dans différentes régions. Et la caractéristique de ces gens-là était qu'ils étaient persécutés. Ils vivaient des moments de persécution, d'épreuves majeures. Et selon ce que MacArthur dit, c'est que il était confronté à la persécution en raison qu'il avait été ciblé par la part de Néron. C'est-à-dire, ce ciblage des croyants a vraisemblablement commencé à la suite de l'incendie de Rome par l'empereur Néron, acte qu'il a ensuite rapidement imputé aux chrétiens. Pierre a reconnu le grand besoin d'aider ses frères et sœurs calomniés et maltraités à acquérir une juste perspective et à tenir bon au milieu de cette souffrance. Puis MacArthur dit, il a rappelé à son auditoire la certitude de l'héritage futur qui est garanti à chaque croyant en Jésus-Christ. Cet avenir merveilleux préservé par la puissance de Dieu est éprouvé par les épreuves et de la persécution et a été prédit par les prophètes de Dieu. Donc, on voit ici ça, les premiers versets, ça nous parle vraiment que Pierre met l'accent aussi sur l'espérance vivante. Vous allez voir au verset 3, ça dit justement que les chrétiens ont été régénérés pour une espérance vivante. Donc, l'héritage futur du salut. C'est sûr qu'on a été sauvés, comme je ne sais pas qui l'a dit dans la prière, peut-être c'est mon frère, on a été sauvés une fois pour toutes. Le salut, c'est un salut éternel. Donc, personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Mais à la fois, ce salut-là, on est dans le déjà et le pas encore, comme vous avez déjà sûrement entendu parler. Le pas encore, c'est l'espérance aussi, l'espérance de que Dieu va établir, Jésus-Christ va établir son règne très bientôt. Et c'est pour ça que Pierre doit mettre l'accent sur l'espérance future, parce que cette espérance est nécessaire pour l'encouragement et la persévérance des chrétiens affligés et éprouvés, car les preuves qu'ils vivent à ce moment-là sont persécutées. Puis si on se fie à ce que MacArthur disait, donc sont faussement accusés aussi. Donc cette épreuve-là va avoir une fin, mais l'héritage, le royaume et le salut à venir lors de la venue de Jésus-Christ n'en aura pas. C'est ça qui est merveilleux, de savoir que même dans nos souffrances, nous, ce qu'on peut vivre, on peut s'identifier à ces chrétiens-là. Depuis 2000 ans, il y a des chrétiens qui sont venus à l'Évangile par la proclamation de l'Évangile. Des gens ont été éprouvés de toutes sortes de façons, qui ont souffert, mais on sait que cette souffrance-là n'est que pour un certain temps, tandis que la gloire à venir n'aura pas de fin. Puis ça, c'est vraiment notre espérance vivante, n'est-ce pas? Amen. Donc, on peut souligner peut-être trois points dans le passage qu'on vient de lire. Le premier point, on peut parler des prophètes, donc leur recherche et l'inspiration du Saint-Esprit. Si je relis le verset 10, ça disait « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. » Et quand on parle de recherche et investigation, il y a d'autres synonymes qu'on peut dire, ou d'autres selon la traduction. Ça dit « On fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut » ou bien se sont informés et enquis avec soin. Se sont enquis, l'ont très diligemment recherché. Le salut a été l'objet de recherches et de méditations, l'exacte recherche et de la profonde méditation des prophètes. Donc, ils ont vraiment exploré le sujet du salut qui leur avait été annoncé d'avance. Matthew Henry parle de ça dans un des commentaires qui dit « Les prophètes se sont renseignés et ont cherché avec diligence, les mots sont forts et emphatiques, faisant allusion aux mineurs qui creusent jusqu'au fond et percent non seulement la terre, mais le rocher pour arriver au minerai. Ainsi, ces saints prophètes avaient un désir ardent de savoir et ils étaient proportionnellement diligents dans leur recherche. Le fait qu'ils aient été inspirés ne rendait pas inutile leur recherche assidue. La doctrine du salut de l'homme par Jésus-Christ a été l'objet de l'étude et de l'admiration des plus grands et des plus sages des hommes. Ceux qui veulent connaître ce grand salut et la grâce qui y brille doivent s'enquérir et chercher diligemment. » La question qu'on peut se poser, est-ce que nous, on cherche diligemment vraiment le salut qui nous a été accordé? Et puis, si les prophètes l'ont fait, bien, à plus forte raison, nous aussi, on doit le faire aussi. Puis ce qui est merveilleux, c'est de savoir que les prophètes ont annoncé quelque chose qui, dans le fond, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais ces choses-là les dépassaient leur entendement, d'où la preuve qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Donc, ils ont annoncé quelque chose qu'ils ne comprenaient pas tout à fait. Alors, c'est ça, ces prophètes-là ont dû chercher, toujours sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Plus spécifiquement dans le passage qui nous intéresse ici, c'est l'Esprit de Christ. Ils ont mené leur recherche, leur méditation pour en arriver à comprendre et saisir ce qu'ils ont prophétisé. Par conséquent, leur recherche n'était pas hors de la conduite par le Saint-Esprit. Parfois, on a l'impression, tu sais, des fois, on dit, étudier ou bien faire des recherches dans l'Écriture, c'est, tu sais, c'est pas vrai, ça fait partie même poussé par le Saint-Esprit, puis aussi sous la direction du Saint-Esprit, on peut faire l'étude des passages des Écritures, puis on peut s'apercevoir qu'on peut, comme on le mentionnait tantôt, retirer des trésors, retirer des pierres précieuses, mais ça prend souvent de la recherche. Il y a un aspect qui est méditatif dans la parole de Dieu, où on va se présenter devant lui, on va lire la parole, on va tout simplement communier avec le Seigneur, mais il y a un aspect vraiment de recherche qui nous permet de découvrir vraiment les profondeurs de son salut. Donc, par conséquent, comme je disais tantôt, la recherche n'était pas hors de la conduite par le Saint-Esprit. Il ne faut pas créer une dichotomie. L'un va avec l'autre, la conduite par le Saint-Esprit et la recherche. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un qui a écrit un livre dans le Nouveau Testament qui a parlé justement des recherches qu'il a fait pour écrire? Luc, c'est ça exactement, oui. Luc, lorsqu'il dit dans les premiers versets, il dit « M'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc, Luc, s'il l'a fait, on considère que l'évangile de Luc est inspiré, mais ça ne l'a pas en fait en sorte que les recherches qu'il a faites était hors du contrôle du Saint-Esprit. Au contraire. Alors, ça devrait nous encourager, nous autres aussi, à faire de même aussi. Un fait intéressant, justement, le verset 11 nous dit « Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » On parle ici que c'est l'Esprit de Christ qui les habitait. Donc, une preuve déjà que Dieu... Jésus-Christ était déjà manifesté dans l'Ancien Testament aussi. On l'avait mentionné la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on a parlé de Isaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur sur le trône. Dans Jean nous rappelle que c'était vraiment le Fils qu'il avait vu. Il avait vu Christ, une manifestation de Jésus-Christ aussi. Donc, à ce moment-là, c'était que c'est vraiment l'Esprit de Christ qui mentionnait qu'il ne viendrait pas en leur temps et que le message dont ils étaient chargés était pour les chrétiens du temps de Pierre et les suivants. Donc, c'était vraiment un encouragement pour le peuple aussi de l'époque de l'apôtre Pierre qui vivait des épreuves. Car Jésus-Christ est venu dans le temps de l'écriture de l'Épître et le message de l'Évangile a été prêché par le Saint-Esprit à salut pour les chrétiens de son temps. Ce qui est béni aussi, c'est de savoir c'est que l'Esprit qui habitait les prophètes qui ont fait ces recherches-là est le même Esprit qui a été donné par le Père et le Fils après l'ascension et la glorification de Christ à la Pentecôte et que chaque prédicateur de l'Évangile a reçu, donc les apôtres, les prophètes, peu importe. Et ainsi, tout croyant né de l'Esprit reçoit le même Esprit qui est l'Esprit de Christ aussi. Lorsqu'on est de nouveau, on est né de nouveau plutôt. Donc, ça c'est le premier point, c'est vraiment la question de la recherche en détail, puis la recherche avec persévérance de la part des prophètes. Le deuxième point qu'on peut relever de ce passage-là, c'est l'émerveillement des anges. Si on lit le verset 12, ça c'est un verset qui me tient particulièrement à cœur, que je trouve tellement béni de lire, c'est... Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Si on regarde encore une fois, plonger le regard, il y a d'autres synonymes qu'on peut dire. Selon la version Martin, ça dit « regarder jusqu'au fond ». La Bible française courante, c'est le connaître le salut. La Bible du Semeur dit « ne se lasse pas de le découvrir ou désire le découvrir ». Darby mentionne que c'est « désire le regarder de près ». Et une autre définition, c'est « se baisser, se pencher vers l'avant ou se courber vers ». Donc, c'est comme si les anges regardent vers le bas pour dire « Wow, qu'est-ce qui se passe là? » C'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment merveilleux. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, puis même vous avez probablement vu des illustrations à un moment donné de ce qu'on appelle le propitiatoire. Qu'est-ce qu'il y a à côté du propitiatoire? Vous en souvenez-vous? Il y a les anges, c'est ça exactement. C'est vraiment une bonne illustration. Fait qu'on voit les anges avec les ailes, chacun de leur côté. C'est comme s'ils sont vraiment penchés vers le propitiatoire également. Puis c'est ce que Jameson, Fawcett et Brown mentionnent. Ça dit que de même que les chérubins se tenaient penchés sur le propitiatoire, emblème de la rédemption dans le lieu plus saint, le plus saint plutôt, de même les anges contemplent et désirent pénétrer dans les profondeurs du grand mystère de la piété, Dieu manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, si les anges, qui sont des êtres célestes, encore une fois, comme je l'avais mentionné la dernière fois, lorsqu'on voit que les anges sont devant la face de Dieu, et puis ils doivent se couvrir le visage et tout ça, ces anges-là sont dans la présence même de Dieu, mais sont émerveillés de voir ce qui se passe dans l'Église, en d'autres mots. Donc, s'ils se penchent vers l'avant, ils ne se lassent pas de découvrir, de connaître le salut. Ça veut dire qu'il y a vraiment la beauté dans le salut qui est inclus dans ce salut-là. Il y a aussi la grandeur qui se trouve dans le salut. On peut s'apercevoir aussi qu'ils ne sont pas l'objet de cette grâce, puisque eux autres même se penchent pour l'admirer. Ils sont obligés de regarder ailleurs, c'est-à-dire le salut se passe là, mais dans le fond, pour eux autres, c'est quelque chose qui est encore à découvrir. Puis ils se penchent parce que ce trésor est immense et inépuisable. Il y a tellement de choses à découvrir dans le salut que le Seigneur a accordé, puis l'œuvre de Christ aussi. Matthieu 13, versets 44 à 46, ça parle justement du royaume des cieux qui est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Un autre des paraboles, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, merci, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Un autre passage qui nous parle vraiment aussi. Juste en passant, on parle, tu sais, qu'il y a tellement de choses qui est à découvrir. C'est comme un trésor, vraiment. Dans Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3, ça dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Puis le verset 3 dit « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Juste pour lancer un petit peu une petite question pour vous, quelles sont les caractéristiques d'un trésor? Juste comme ça, là, juste à quelques idées. Les trésors sont rares, oui, parfait. Donc, ça suscite l'admiration aussi, ça l'intérêt. Oui, une certaine convoitise, effectivement. OK. Puis, qu'est-ce que ça suscite en nous aussi? L'émerveillement, oui, très bien. D'admiration, découverte. C'est vraiment une comparaison boiteuse, là, comparé à Jésus-Christ et avec son œuvre. OK, un trésor, c'est sûr qu'on peut découvrir toutes sortes de choses et puiser, mais si on dit que tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés ou sont placés en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a tellement de choses à découvrir. Je pense qu'on doit redécouvrir l'aspect de l'émerveillement aussi dans nos vies. C'est tellement important, tu sais. Et malheureusement, si vous êtes comme moi, on devient parfois un peu familier avec l'œuvre de Dieu, avec ce que Dieu a fait, puis même avec notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, alors que le Seigneur puisse nous susciter d'avoir cet émerveillement, puis ce désir de découverte aussi qu'il veut qu'on ait également. Donc, premier point, comme on a parlé tantôt, on a parlé de la recherche des prophètes. Deuxième point, c'est j'ai perdu mon petit point ici, là. L'émerveillement des anges. Troisième point, au verset 13, c'est l'appel à l'action. Verset 13, ça nous dit, c'est pourquoi, une fois que Pierre nous annonce que ce salut était pour eux et que même les anges désirent plonger leur regard dans ce salut-là, Pierre nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tenez-vous prêt à agir. D'autres traductions disent, gardez votre intelligence, votre esprit en éveil. Affermissez votre pensée, soyez sobre. Tenez votre esprit en éveil, saignez les reins de votre esprit, faites preuve de modération. Donc, comme je viens de le mentionner, nous sommes l'objet de cette grâce, non pas les anges, de cet immense amour, de ce salut parfait et éternel, grandiose. À plus forte raison, devrions-nous faire comme les anges et contempler, méditer, découvrir, connaître ce salut, cette grâce et y puiser constamment. Donc, ceci devrait nous porter à l'action dans la découverte et pour la suite de notre vie également, notre vie spirituelle. Le mot « plonger le regard », tantôt on a parlé de ça, plutôt les trois mots. Dans Jacques 1, verset 25, vous vous souvenez, Jacques nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, c'est important, et qui aura persévéré. » On doit persévérer, même dans les moments où on se sent découragé, fatigué, ou peu importe, on a besoin de persévérer. Premièrement, Dieu va nous donner aussi le carburant pour le faire, tu sais, par son esprit. Mais ça peut arriver dans les moments de découragement qu'on baisse un peu la garde. Mais celui qui a persévéré n'était pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le verset, quand ça dit ici, « Saignez les reins de votre entendement » ou bien « Saignez les reins de votre esprit ». Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Les contemporains de l'apôtre Pierre portaient une longue tunique qu'ils laissaient flottante dans la maison, mais lorsqu'ils voulaient marcher ou travailler, ils mettaient une ceinture autour de leurs reins pour ne pas être gênés par les plis amples de cette tunique. » Et puis, Spiros Zotiatès, c'est un expert justement dans la traduction de la Bible en grec et tout ça. Il dit que le verbe grec qu'on a dans le verset qu'on vient de lire n'apparaît qu'une seule fois. C'est dans 1 Pierre 1,13 où il est appliqué à l'esprit qui est tenu en constante préparation. Il est tiré de la coutume des nations orientales qui, lorsqu'elles avaient l'occasion de se déplacer comme en voyageant, en courant, avaient l'habitude de lier leurs longs vêtements par une ceinture autour des hanches. Ça leur permettait justement de pouvoir circuler librement. Ça vous rappelle, est-ce que ça vous rappelle une histoire de l'Ancien Testament? Pas une histoire, mais un fait vécu là, de l'Ancien Testament? Oui, tu dis oui. Non. Dans l'Ancien Testament. Oui. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, ça nous est encourageant. On va tourner dans Exode 12, verset 11 pour aller le voir. C'est au moment de la Pâque, la célébration de la première Pâque, avant que le peuple sorte de l'Égypte, qu'il soit libéré de l'Égypte. Exode 12, verset 11 nous dit, en parlant de l'agneau pascal, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, ils étaient prêts pour aller de l'avant. Okay, ils devaient manger l'agneau et prêts pour sortir. Nous aussi, ça doit être la même chose dans notre vie spirituelle. Okay? Nous, on a été rachetés par le Seigneur de Christ, comme le peuple, un peu à l'image de la Pâque de l'Ancien Testament. Mais maintenant qu'on est racheté, nous aussi, on doit aller à la hâte ou aller de l'avant, être prêt, être sain de nos esprits, qu'ils soient sains, C-E-I-N-T-S, pour aller de l'avant. Puis c'est même le processus de sanctification également. Donc, on peut se rappeler aussi, on a parlé ici que vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Mais les reins sains et vos souliers aux pieds nous rappellent aussi l'armure du croyant, qui est décrit par l'apôtre Paul, qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Verset 14 du chapitre 6 d'Éphésiens dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Donc, Jésus-Christ est vraiment la vérité. C'est lui qui nous a franchis. C'est la parole de Dieu qui nous a franchis. La vérité nous a franchis. Elle enlève les obstacles de la tunique, si on peut dire, spirituelle, pour marcher aisément, pour aller de l'avant. Donc, c'est important d'avoir les pensées saint par la vérité, et revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Donc, ce zèle-là qu'on a par le salut de Jésus-Christ, c'est lui qui va nous porter à l'action, puis c'est lui, comme je disais tantôt, qui est notre carburant. Puis sans entrer dans les détails, vous vous souvenez de l'hymne christologique dans Philippiens 2, vous en avez sûrement déjà entendu prêcher tout ça. Lorsque Paul parle qu'on doit avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ, puis il mentionne tout ce que le Christ a fait, il est mort, il est descendu jusqu'à la mort, comme la mort de la croix et tout ça, puis il a été élevé. Donc, l'apôtre Paul mentionne le salut qui a été manifesté en Jésus-Christ avant de dire quoi faire par la suite. Ça dit par la suite, il dit à partir du verset 12 dans Philippiens 2, « Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. » Un peu plus loin, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » C'est toujours Christ qui se manifeste. L'histoire de l'humanité, c'est toujours d'abord et avant tout une histoire de rédemption. C'est sûr que toutes sortes de choses qui se passent autour de nous, dans le monde et tout ça, mais en bout de ligne, c'est vraiment l'histoire de la rédemption. Puis c'est l'histoire du peuple de Dieu, de ses rachetés aussi. Dès la création, Dieu se manifeste à l'homme. Et par la suite, après la chute, c'est encore Dieu qui se manifeste par la promesse dans Genèse 3:15. Donc, que Dieu va révéler de plus en plus clairement jusqu'à la venue de Christ. L'œuvre de Dieu qui a été révélée en Jésus-Christ nous est révélée avant qu'on puisse agir. Donc, c'est ça qui va nous donner la vie, la joie, la reconnaissance et la persévérance à aller de l'avant. Tantôt, vous vous rappelez, on a parlé dans Colossiens 2, versets 2 et 3, on disait que tous les trésors de la sagesse sont cachés en Jésus-Christ. Nous, notre responsabilité, c'est vraiment de découvrir Christ et son œuvre de salut, l'Évangile. C'est le don le plus grand de Dieu, Jean 3, 16, tout le monde le sait. Et dans Matthieu 3, verset 17, au baptême de Jésus, même Dieu le Père manifeste son amour et toute son affection. Il mentionne que toute son affection a été placée en Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ou bien en celui qui fait toute ma joie. Jésus est la révélation suprême et finale en chair de Dieu. Par la foi, placé en Christ, le Fils unique, et ayant l'Esprit de Christ en nous, nous sommes aimés de Dieu et adoptés par le Père céleste. Donc, c'est vraiment un privilège et une grâce aussi. Donc, comment peut-on être prêt à agir, garder notre intelligence, notre esprit en éveil et d'affirmer notre pensée? C'est vraiment en découvrant l'œuvre de Christ. C'est vraiment en découvrant Jésus-Christ, son œuvre, puis en étant saisi par lui et en le saisissant. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 10, « Et même je regarde toutes choses comme une perte. » Paul, qui était un, celui, vous vous en souvenez de son CV, là, tout ça, mais son CV était vraiment plein, il était vraiment garni de toutes choses, de tout accomplissement, bien des accomplissements, mais il dit, « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Donc, Paul a été saisi sur le chemin de Damas. C'est vraiment la révélation, comme on l'a mentionné tantôt, que Paul a reçue sur le chemin de Damas, que Christ s'est manifesté à lui en premier. « Pour lequel j'ai renoncé à tout. » Donc, la réponse de Paul, c'est que il dit, « Moi, je veux tout laisser à cause de la révélation que j'ai reçue de Jésus-Christ, et je les regarde, tous ces accomplissements, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Et le verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Donc, Paul a connu Christ, il a été connu de lui. En raison de cette révélation qu'il a obtenue, il désire tout laisser. Mais par la suite, il veut continuer, parce que la course n'est pas terminée. Il veut aller jusqu'au bout. « Afin de connaître Christ, encore une fois, on peut le découvrir de plus en plus, et la puissance de sa résurrection. » Alors, c'est vraiment ça, la richesse, c'est vraiment ça ce qu'on doit rechercher également. Bien, désolé, moi le premier, là, je peux le dire, c'est que souvent mon cœur est tellement comme... Ça arrive souvent que là, notre cœur est indifférent, malheureusement, notre cœur est blasé, peu importe. Et puis ça, c'est un peu un exemple que Pasteur Jeff disait, on amène les gens, justement, en mission... Lorsqu'ils reviennent ici, ils disent plus, il me semble qu'on n'a rien à manger quand le frigidaire est plein, en voulant dire, tu sais, que des fois, quand on est dans le confort, puis on a cette facilité-là de vie, on oublie vraiment la grâce que Dieu nous a accordée aussi en même temps. Alors, que le Seigneur puisse nous renouveler dans cette connaissance par rapport à lui. Proverbe 4, verset 7 nous dit, « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » On est tous appelés à découvrir de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre, la beauté de l'Évangile également. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire de façon pratique? Puis ça, c'est pas sorcier, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous, mais il y a trois façons. C'est sûr que, premièrement, par l'étude et la méditation de la parole. Puis comme je l'ai mentionné la dernière fois, une des choses qui est peut-être le plus souvent négligé dans nos vies, probablement dans la vie des chrétiens, c'est la question de la méditation de la parole. C'est là qu'on va vraiment pouvoir découvrir de plus en plus, on peut craquer les coquilles pour aller à l'intérieur, pour découvrir ce que le Seigneur a en réserve pour nous en méditant la parole. Juste le psaume 23, c'est plein de richesse dans ce psaume-là, mais il y en a tellement de passages qu'on peut découvrir, mais ça prend du temps, ça prend la méditation de la parole. On doit apprendre de ne pas être pressé aussi. Puis ça, c'est dans notre vie quotidienne, malheureusement, on est souvent trop pressé, puis le rythme de vie nous fait en sorte qu'on doit s'arrêter. Donc, la méditation, l'étude de la parole. Deuxièmement, par la prière, il faut demander à Dieu de nous donner la sagesse et nous remplir de son esprit. Et une autre façon, c'est par l'assemblement de nous-mêmes. Souvent, malheureusement, notre diète spirituelle, si on ne se nourrit pas tous les jours de la semaine, notre diète pourrait représenter un repas par semaine. Et comme quelqu'un, je pense que c'est Paul Washer qui disait ça, il dit, Il disait, mettons, si je décidais de manger aujourd'hui, de prendre toute la commande que j'ai, toute la nourriture que j'ai achetée, il disait, bon, aujourd'hui, je mange aujourd'hui pour 7 jours, tu sais. Mais vous allez être malade premièrement, puis vous voudrez pas aller manger, tu sais, ça c'est sûr. Ou si on mange juste une fois par semaine, bien, à un moment donné, on va avoir faim, puis on sera pas capable de persévérer, puis on va manquer de force. Donc, c'est toujours un peu tous les jours, un peu tous les jours. Et puis, le Seigneur va se révéler de plus en plus à nous. Quand on parle de l'assemblement de nous-mêmes aussi, c'est important parce que c'est un des moyens de grâce que Dieu nous accorde aussi pour pouvoir découvrir le Seigneur aussi. Vous allez lire dans Romains 12, dans Éphésiens 4, 1 Corinthiens 12, Dieu a donné divers dons. C'est sûr que les dons, bon, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, enseignants, qui sont mis à part pour faire connaître Christ aussi, pour faire connaître l'Écriture, l'enseignement, la prière. Mais il a cependant aussi donné des dons à tous, puis qui sont distribués par le Saint-Esprit. Puis il n'y a pas personne, comme je pense, je l'avais mentionné aussi la dernière fois, il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'y a pas de dons. Dieu nous a accordé chacun des dons particulièrement par son Esprit. Donc, ces dons-là sont au profit des autres. Ces dons-là sont là pour manifester Christ aux autres et pour que Christ soit manifesté à nous de la part des autres également. Il y a Galates 5, 22 qui parle aussi du fruit de l'Esprit. Habituellement, les fruits ne sont pas pour l'arbre. Okay? C'est sûr qu'on va reconnaître l'arbre à ses fruits. Mais s'il y a des fruits dans un arbre, c'est pour que les autres puissent les cueillir et en bénéficier également. Donc, si vous avez des fruits dans votre vie, si vous avez des dons dans votre vie, c'est encore une fois pour l'édification de l'autre, afin que l'autre puisse s'en nourrir et de pouvoir connaître de plus en plus Jésus-Christ et d'être fortifié dans sa foi. Donc, il faut maintenir ce circuit-là. Il y a l'assemblement de nous-mêmes, que ce soit les dimanches ou les mercredis, si vous avez de l'étude biblique, mais il y a aussi le contexte où ce qu'on est on se retrouve individuellement, chacun dans notre famille également. L'un va permettre de nourrir l'autre. Donc, le dimanche, on est nourri par le Seigneur, on est nourri par la présence de nos frères et sœurs, on est nourri par sa parole, par les chants. Ça va nous nourrir pour que la semaine, on continue à se nourrir et non qu'on arrête également. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir être là pour notre famille également. Mais lorsqu'on se nourrit dans la semaine, on va être là aussi pour le dimanche suivant, pour notre frère, pour notre sœur qui a besoin aussi d'encouragement, d'édification, d'une parole de sagesse, etc. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et plus qu'on passe du temps ensemble, si je parle ici avec le Seigneur, plus on va pouvoir le connaître. C'est un peu comme l'exemple, moi, mon frère et moi, on a fait la musique à l'église pendant des années ensemble. Lui, il jouait le piano, moi, c'était l'orgue, tu sais. Mais ça en était venu à un moment où ce qu'on se devinait, tu sais. C'était comme, je savais où il était pour aller, fait que je pouvais le deviner et vice-versa. C'est la même chose avec mon épouse, tu sais. Plus qu'on passe du temps ensemble, plus que je sais qu'est-ce qu'elle pense, plus que je sais qu'est-ce qu'elle veut aussi. Alors, donc, c'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Plus qu'on passe du temps dans la parole avec lui, la méditation, l'étude, la prière, la contemplation, on doit le contempler également, plus on va se nourrir de la beauté de Christ et de son Évangile par la puissance du Saint-Esprit, plus on va découvrir également et on va discerner les œuvres que Dieu veut qu'on fasse à tous les jours, individuelles, mais les œuvres en assemblée. Puis, je suis convaincu que le Seigneur est en train de vous accorder aussi la direction pour savoir quelles œuvres en tant qu'Église aussi, il désire que vous accomplissiez ensemble. Et si on est dirigé par le Saint-Esprit, si on demande au Seigneur de nous remplir de son Esprit, comme je mentionnais, on pourra de plus en plus discerner sa volonté et vivre des moments un peu comme Philippe. Vous en souvenez, dans Acte 8, verset 29, le Saint-Esprit lui dit « Approche-toi de ce char ». Okay? C'est pas d'ajouter à l'Évangile, c'est pas d'ajouter au canon de l'Écriture. Parce que le Seigneur va continuer à nous diriger quotidiennement dans nos vies. Le Saint-Esprit est vivant en nous. Il va continuer à nous parler. Fait que ça peut arriver à un moment donné. Puis ça m'est arrivé à un moment donné, je me souviens, j'étais en prière un soir, puis c'est devenu clair dans mon esprit. Je prenais le métro pour aller travailler, puis ça faisait un bout de temps qu'il y avait une dame qui était là souvent, tu sais, pour demander l'aumône. Puis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais ce soir-là, c'est devenu clair dans mon esprit. Puis c'est comme si le Seigneur me disait, elle va être là demain matin, puis tu vas lui parler. C'était vraiment... Fait que ces moments-là, plus qu'on devient familier dans le sens pas de façon péjorative, mais plus qu'on connaît notre Seigneur aussi et par le Saint-Esprit, plus on va être dirigé par lui. Il y a l'apôtre Pierre avec Corneille, vous en souvenez aussi. Là, voici trois hommes te demandent dans Acte 10, verset 19. L'apôtre Paul dans Acte 18, verset 10, qui dit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. » Il y a un peuple nombreux qui va se convertir également. Donc, toujours aussi, comme dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, de garder les yeux fixés sur Jésus, le chef et l'auteur de notre foi également. Parce que, bien que l'assemblement de nous-mêmes est important, parfois on va se retrouver seul. L'apôtre Paul l'a vécu lui-même, il s'est retrouvé seul, mais il a fallu quand même, en prison, peu importe où il était, il a fallu qu'il s'en remette au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sa communion avec lui qui a fait en sorte qu'il a pu également persévérer. Et en terminant, on va tourner dans Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 21. C'est vraiment un merveilleux passage, puis l'apôtre Paul qui termine avec une doxologie en terminant, mais c'est tellement béni. Donc l'apôtre Paul qui dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Encore une fois, on parle des richesses ici et de la grandeur de l'œuvre de Christ. « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Là, vous vous souvenez de ce qu'on a parlé tantôt, justement, les anges qui désirent plonger leur regard. Paul en reparle ici, dans ce cas-ci, en disant que même les dominations et les autorités des lieux célestes, ils le découvrent par l'œuvre dans l'Église, par l'Église. Et la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Et là ici, l'apôtre Paul qui termine en disant, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ, encore une fois, c'est ce que les anges admirent aussi, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Encore une fois, on parle de l'immensité, de l'amour de Jésus-Christ, puis d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À ce que je peux deviner, je pense qu'il n'y a personne encore qui a été rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu encore. Hein? Donc, il y a tellement de choses à découvrir. C'est vaste, c'est profond, c'est haut. On ne peut pas l'imaginer. Puis, même, je pense que rendu dans la Nouvelle Jérusalem, on va continuer à découvrir quelle est la grandeur de la grâce dont on est fait l'objet aussi. Le salut de Dieu manifestant Jésus-Christ et la grandeur de notre Dieu. Donc, il faut vraiment retrouver l'émerveillement, la question de découverte, de stupéfaction, de contemplation de Christ et de l'Évangile. L'Évangile, puis c'est même dans ta prière ou dans ta prière, André, tu as mentionné que c'est assez simple pour un enfant qui entend la bonne nouvelle, qui puisse venir au Seigneur. L'Évangile est accessible à tous. Mais il est à la fois tellement vaste que des milliers d'hommes ont écrit à son sujet que le monde ne pourrait même pas contenir tous les livres et que nous continuerons à découvrir dans l'éternité. Donc, que Dieu puisse nous pardonner pour notre familiarité, notre cœur blasé, notre indifférence. Comme l'Épître aux Hébreux nous le mentionne, il ne faut pas endurcir notre cœur également. C'est encore aujourd'hui le jour où on peut découvrir encore la grandeur et la bonté de Dieu aussi par Jésus-Christ. Et en terminant, un verset qui nous rappelle une promesse également. Ceux qui vont avoir vraiment connu Christ, qui vont l'avoir découvert, qui vont avoir fait de Dieu, de Christ, ses délices. Daniel 11, verset 4 qui dit « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Alors, plus qu'on s'enracine dans l'Évangile, qu'on s'enracine dans la découverte de Dieu et de Jésus-Christ, plus on va demeurer ferme jusqu'à la fin. Alors, que le Seigneur puisse nous accorder vraiment d'avoir cette découverte ou ce désir de découverte par le Saint-Esprit et pour sa gloire. Amen. Amen. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ces quelques moments. Merci pour le corps de Christ aussi. Merci pour tous ceux qui sont présents ici, puis ceux qui n'ont pas pu être présents. Merci pour toutes les familles qui sont réunies. Merci pour Christian et tout pasteur Raymond également, toute la direction. Je te prie vraiment de bénir chacun d'entre nous. Seigneur, on crie à toi, on crie à l'aide parce que tellement souvent, Seigneur Dieu, on dépend pas suffisamment de toi, on dépend trop de nous. Seigneur, tu nous demandes de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, de te reconnaître dans toutes nos voies, puis tu vas aplanir nos sentiers. Merci de nous faire découvrir la grandeur, la bonté et la beauté plutôt de l'Évangile de Jésus-Christ manifesté dans ton Fils. Et bénis cette semaine, Seigneur, alors que lorsqu'on va être de retour dans chacun de nos milieux, un peu comme le chant qui disait, « Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien, Seigneur, qu'on soit une lumière aussi, la lumière de Jésus-Christ. » Merci à l'avance. Amen. Amen. Merci.